Interview de Philippe Liénard par Julie Triol des Pierres Brutes.
Bonjour Philippe, est-ce que tu viens tous les ans au Salon du Livre ?
Alors chaque fois qu'on m'invite, je suis évidemment là puisque je suis à la disposition des sœurs et des frères pour pouvoir non pas répandre la bonne parole, ça c'est pas une prétention de ma part, mais partager, même pas partager, véhiculer des idées, ne pas convaincre, mais faire réfléchir.
Est-ce que en tant qu'auteur, du coup, on te pose beaucoup de questions sur tes bouquins ? Ou est-ce que c'est plus pour des dédicaces que les gens y viennent ? Est-ce qu'ils passent en coup de vent ? Ou est-ce que tu as des vraies discussions justement avec le public ?
Alors, ce sont des vraies discussions parce que le temps que je passe à discuter avec ceux qui me posent des questions est infiniment sympathique et long, mais agréablement long, par rapport aux dédicaces ou pas. Je veux dire, les gens qui viennent m'interpellent sur les livres en me posant des questions et ça, c'est très enrichissant pour tout le monde. Et pour eux peut-être, et pour moi surtout, parce que ça me permet de me rendre compte en quoi les livres que parfois ils ont lus déjà et qu'ils possèdent déjà les interpellent sur des questions auxquelles je n'ai peut-être pas forcément pensé, mais qui enrichissent le débat.
D'accord. Ça fait longtemps que tu es maçon ?
Alors, c'est une bonne question, ça doit faire une trentaine d'années.
C'est pas mal.
Alors, quel est le livre que tu présentes plus particulièrement cette année ?
Alors cette année, le dernier né, c'est le livre sur les Illuminati, puisqu'on raconte sur ce sujet tout et n'importe quoi. Si on va sur Internet, on se rend compte qu'il y a 2 500 000 occurrences sur la maçonnerie, mais 160 millions sur les Illuminati. Et généralement, quand on parle d'Illuminati, on parle des Illuminés de Bavière, ça a duré 9 ans. Moi, je remonte à la peur de l'après l'an 1000 et à la création des Frères de l'Esprit Libre, les premiers illuministes, et je viens jusqu'à aujourd'hui, dans tous ces mouvements particuliers, y compris des mouvements de frappadingue, qui sont répartis dans 58 pays à travers 500 000 personnes, il est utile de pouvoir dire ce qu'était l'illuminisme, ce que c'est aujourd'hui, et surtout que l'idée des Illuminés de Bavière, elle était extrêmement intéressante, et parfois je dis quelque chose qui ne plaît pas en maçonnerie, c'est qu'à 50%, la mort des Illuminés de Bavière, elle est due aux francs-maçons allemands, de la stricte observance templière. Mais ça, je me fais des ennemis en disant ça, mais je suis prêt à leur répondre.
C'est parfait.
Tu peux expliciter un peu ce passage particulier du fait que pourquoi ils sont morts à cause des francs-maçons ?
Ah, tout simplement parce que les Illuminés de Bavière, au départ, c'est un mouvement, c'est une mayonnaise qui n'a pas pris. Mais quand Adam Weishaupt s'est adjoint les services et l'aide du baron von Knigg, qui était un maçon, il a tracté derrière lui un certain nombre de francs-maçons et tous les Illuminés de Bavière étaient à un moment des francs-maçons qui venaient des loges de l'époque, qui étaient des loges qui travaillaient au rite de la stricte observance templière. Et la maçonnerie bavaroise en particulier s'est progressivement vidée au profit des loges Illuminati qui fonctionnent d'une manière que je décris dans mon livre. Et cette maçonnerie s'est sentie en danger avec une concurrence qui tenait en deux points. C'est de dire, et à l'époque c'était extrêmement courageux, de dire la vérité ne se trouve pas nécessairement dans les religions, la vérité se trouve dans la connaissance que vous pouvez acquérir librement en vous intéressant à tous les sujets. Deuxième point extrêmement important, nous sommes tous égaux, personne n'est plus qu'un autre. Cette fraternité-là et cet état d'esprit-là ont gêné la maçonnerie de l'époque, qui était encore une maçonnerie qui tenait plus de la monarchie constitutionnelle maçonnique que de la démocratie.
Et du coup, c'est quoi un Illuminati aujourd'hui ?
Alors, les Illuminati aujourd'hui, c'est un état d'esprit. D'abord, le mot Illuminati vient des détracteurs des Illuminés de Bavière. La langue française, elle est merveilleuse, mais elle a ses défauts. Le mot illuminé fait penser à frappadingue, et devrait être remplacé par le mot éclairé. L'illuminisme, c'est être un homme ou une femme éclairé. Parce qu'on aurait tort de penser que les illuminés n'étaient que des hommes.
Hein. Éveillé peut-être aussi.
Éveillé, vigilant. Ouais. Et donc cet éclairage-là a conduit l'illuminisme d'aujourd'hui à continuer à pratiquer ça. Mais le problème, le revers de la médaille, c'est qu'en pratiquant ça, en pratiquant cet intérêt pour tout et cet éclairage sur tout, il y a aussi des gens qui se sont associés entre eux, et c'est leur droit, hein, c'est la liberté d'association, pour créer des mouvements parfois satanistes, un peu dans la sorcellerie, mais aussi dans une sorte de maçonnerie parallèle. Ce qu'on sait très peu, c'est qu'aux États-Unis, sur les 2 millions de maçons qu'il y avait, il en reste 600 000. Où sont passés les autres? Une bonne partie sont passés dans des loges Illuminati. La tendance de Memphis Misraïm aux États-Unis s'est ralliée à l'obédience Illuminati. On n'en parle jamais.
Est-ce que c'est parce que c'est ésotérique, à ton avis? Est-ce que l'ésotérisme, justement, c'est parfois la porte ouverte un peu à n'importe quoi quand c'est mal cadré? Je ne sais pas si ma question elle est claire, parce que...
Mais la réponse le sera.
Merci, Gilles. Tu vois ce que je veux dire, non?
L'ésotérisme, à partir du moment où on l'oppose en langue française à l'exotérisme, c'est-à-dire ce qui est évident dès qu'on le constate, l'ésotérisme étant le sens caché des choses, il est évident que dès qu'il y a sens caché, il y a nécessité de ne pas expliquer, pour laisser à chacun, par sa liberté de penser et son libre arbitre, se faire sa propre opinion des symboles ou de l'ésotérisme. Dès lors qu'il y a contrainte, dogme, pensée unique, ou enseignement, comme par exemple le fait l'AMORC, c'est-à-dire l'association des Rose-Croix d'aujourd'hui, qui ne sont pas plus Rose-Croix que d'autres, hein, puisque c'est un mouvement créé en 1909 par un Américain. Mais dès le moment où cet ésotérisme conduit à véhiculer une pensée qui comporte de la contrainte, c'est plus de l'ésotérisme. Ça relève plus de l'esprit sectaire.
Philippe Liénard, merci beaucoup.
C'est très agréable, en tout cas, cette conversation.
Mais je vous remercie tous les deux.
Et à très bientôt.
Merci.